en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, je vais présenter l'éloge d'Alain Planté, mais je n'avais pas prévu de devoir tout de même vous remercier des paroles très excessives et élogieuses que vous venez de prononcer. Elles me touchent infiniment et je me permets par votre intermédiaire de dire également ma gratitude à tous nos confrères qui ont bien voulu m'associer à leur compagnie. Je m'en réjouis, je m'en félicite tous les jours et je m'enrichis auprès d'eux. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres de la famille d'Alain Planté, Mesdames, Messieurs, le redoutable honneur qui m'incombe aujourd'hui n'est pas celui du souvenir, vous l'avez dit, Monsieur le Président, il est celui de la présence parmi nous, la présence dans les esprits et dans les pensées, la présence du Président Alain Planté. Telle est la signification, si je l'ai bien comprise, de ce que notre confrère Jean Béchler, accueillant ici même Pierre Delvolvé, désignait comme les mœurs et les rites de notre vie académique. Ce sont ces mœurs et rites qui donnent à l'Académie le privilège, du moins pouvons-nous y croire, de conjurer l'oubli, ce second linceul des morts, disait Lamartine. Comment m'en acquitter mieux qu'en donnant la parole à Alain Planté, alors âgé de 15 ans, parole de conviction et d'action, dont l'intime liaison m'apparaît comme l'âme de sa vie, comme l'axe de son œuvre. Dans un témoignage qu'il a lui-même souvent livré et qu'a encore rappelé le président Jean-Louis Debré lors de la cérémonie d'obsèques d'Alain Planté en l'hôtel des Invalides, ce dernier s'exprime ainsi. Le 19 juin 1940 à Bordeaux, en gare Saint-Jean, arrivaient des trains entiers de familles réfugiées que la guerre éclair avait contraint à quitter leur maison, valises et paquets à la main. Je m'y trouvais. Soudain, un grand gaillard s'écria « Mais la guerre, elle n'est pas finie !» Ajoutant « C'est un général français qui l'a dit hier à la radio de Londres, il veut continuer à se battre. » Alain Planté poursuit « Natif d'Alsace, je ne pouvais accepter notre défaite devant l'Allemagne nazie. » Comme je me tournais vers lui, il m'a dit « Devine comment il s'appelle, il s'appelle De Gaulle. » Dans l'âme du lycéen de 15 ans que j'étais, cette annonce a provoqué comme une illumination. Une certitude m'a paru, ce nom n'était pas celui des vaincus, il était porteur de salut, porteur de victoire. Le 19 juin 1940, presque religieusement, je suis entré au gaullisme, je n'en suis jamais sorti. Là est la vie d'Alain Planté, constamment enrichi, il avait alors 15 ans. Là est ce que lui-même désigne comme sa vocation, une vocation à l'accomplissement de laquelle il mettra une action multiple dans ses expressions, constante dans sa disponibilité et son application au service de l'État, parce que c'est l'État qui a fait la France, au service également d'un idéal politique ouvert aux réalités et composant avec les circonstances, parce que c'est cela aussi le gaullisme. Admirable fidélité à soi-même, qui scelle l'unité d'une vie, lui donne son sens et sa force d'exemple. Je connaissais et pratiquais les ouvrages d'Alain Planté, notamment son traité du droit de la fonction publique, dès mes années de faculté. Je dois même confesser que c'est à la disposition de ce traité que, lors du concours d'agrégation, j'ai pu découvrir le sens du sujet qui m'avait été proposé. Il s'agissait du délit d'ingérence, dont j'ignorais tout, alors très confidentiel, même s'il a connu depuis une nouvelle vie sous l'appellation modernisée de délit de favoritisme. Mais si pour cette raison notamment, ma reconnaissance et mon admiration étaient déjà acquises à l'œuvre du président Planté, je n'étais présenté à celui-ci qu'au début des années 80. Et d'abord au sein de l'Institut du droit d'expression française, l'IDEF, qu'il avait fondé dès 1964 avec René Cassin et qu'il animait avec le concours notamment de Pierre de Chaix. Il y apportait son expérience, son intime connaissance de l'Afrique francophone et de Madagascar. Il y apportait aussi des liens personnels de confiance, d'estime, d'amitié, noués avec la plupart des responsables des nouveaux États africains venus à l'indépendance. Pour ma part, regagnant la France après les années de mon affectation à la faculté de droit de Rabat, j'en ai été le témoin privilégié et de l'ANE, nourri d'emblée de notre commun attachement au Maroc, une bienveillante attention du président Planté et qui ne s'est jamais démenti. Alain Planté impressionnait et rassurait en même temps. Il impressionnait par une carrière brillante que venait couronner au même moment son élection à l'Académie des sciences morales et politiques. Il impressionnait parce que cette belle carrière n'était pas faite d'ambition, mais tout entière animée par la volonté de servir, servir l'État pour servir la France, cette France venue du fond des âges, comme disait De Gaulle. Il impressionnait aussi parce qu'il avait le goût et le sens du commandement, sans qu'il lui soit besoin jamais d'user de l'argument d'autorité. Il impressionnait, mais il rassurait en même temps. Il rassurait par une constante disponibilité, une ouverture évidente à l'altérité, l'écoute de l'opinion chacun quel qu'il fût, la curiosité de nouveaux horizons, un égal respect pour les cultures, les peuples, les religions. On avait le sentiment que sa grande culture, nullement bornée aux choses du droit et de l'administration, plus séduisante encore quand il traitait de peinture ou de musique, n'était jamais refermée sur elle-même. Elle trouvait son accomplissement dans l'exploration de nouvelles frontières, de nouveaux territoires, une culture riche de la connaissance et de la contemplation du passé, pour y lire aussi comme une promesse d'avenir. Attentif aux enseignements du passé, il eut cependant volontiers fait le sien le mot de Paul Valéry, « Ce qui a tué les conservateurs, c'est le mauvais choix des choses à conserver. » Et cette immense culture, qui lui était comme naturelle, il savait, et cela aussi rassurait, il savait la mettre à la disposition, je dirais presque à la portée de tous, dans le langage du quotidien, sans boursouflure ni artifice. On pouvait dire de lui comme de Montaigne, « Le parler que j'aime est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche. » En cela le servait encore un humour généreusement dispensé, parfois corrosif, mais qu'il savait aussi étendre à sa propre personne. Mais redonnons aux événements leur cours naturel. Trop de savants historiens m'écoutent aujourd'hui, et peut-être aussi de l'au-delà, pour que je persiste à brusquer la chronologie. Surtout lorsque cela me conduit à parler de moi, qui n'existe aujourd'hui que pour et par l'hommage que je dois rendre. Alain Planté est né le 10 juillet 1924, en terre d'Alsace à Mulhouse. Son père, Robert-Gilles Planté, artiste peintre de renom, né à Bordeaux, se définissait lui-même comme un Alsacien d'adoption et de cœur. Et de fait, après des études à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux et de Paris, l'exécution de quelques œuvres majeures et un séjour à la Villa Médicis, Robert-Gilles Planté, mobilisé et envoyé sur le front dès 1914, grièvement blessé en 1916, s'était installé en Alsace au lendemain de la Grande Guerre pour y exercer les fonctions de directeur de l'École municipale de dessin, puis de conservateur du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. Robert-Gilles Planté avait épousé en seconde noces en 1923 Marguerite Stélin, elle-même artiste peintre et rencontrée à l'École des Beaux-Arts, issue d'une vieille famille protestante d'Alsace. Son père, maître de forge à Bitschwiller-Lettan, était lui-même le parent d'Auguste Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, l'ami intransigeant de Gambetta, lui qui voulait réhabiliter Dreyfus par la légalité et la justice et non par voie de presse, également oncle par alliance de l'épouse de Jules Ferry. Si je m'y arrête, c'est qu'Alain Planté portait comme une part de lui-même, et il le faisait savoir, l'héritage de ce grand moment républicain de la fin du XIXe siècle, à travers cette lignée bien particulière, dite parfois celle des reines d'Alsace. Ces personnalités de haute stature intellectuelle, grands connaisseurs et amateurs d'art, glissant parfois du protestantisme à l'agnosticisme, mais toujours fidèles à la tradition et au milieu protestant, et engagés dans la politique aux côtés de leur mari, eux-mêmes au plus haut de la grande bourgeoisie républicaine. L'heureuse rigueur alsacienne accompagne ainsi les 15 premières années d'Alain Planté, lui-même cependant originaire par son père d'une famille de Bordeaux. Lui remettant son épée, forgée aux fonderies familiales de Bitschwiller-Lettan, Maurice Druon le dira en ces termes. « Intransigeance alsacienne, audace gasconne, voilà qui naturellement ne pouvait que faire de vous, au jour du malheur, un résistant, un clandestin, un combattant volontaire, un libérateur de la région bordelaise, enfin pour tout dire, un Français libre. » Pour l'immédiat, l'heureuse rigueur alsacienne a fait d'Alain Planté un lycéen brillant aux portes du baccalauréat, lorsque la guerre qui, pense-t-on, expose d'abord l'Alsace, entraîne le retour de sa famille sur les terres de Gironde et son installation à Pessac en 1939. C'est là que nous retrouvons Alain Planté. Jeune garçon emporté par la débâcle et anxieux sans doute du lendemain, mais aussi et surtout du sort de son pays. Mais il y avait cette parole, qui sonne alors comme un guide, cette parole répétée le 19 juin. « Tout Français qui porte encore les armes a le devoir absolu de continuer la résistance. » Alain Planté lycéen de 15 ans n'en portait pas. Il allait en acquérir. Il y avait aussi cet autre discours à la radio de Londres le 22 juin. « J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. » Et c'est ce que fit Alain Planté. Il raconte lui-même s'être présenté à la gendarmerie de Bordeaux pour, dit-il, « s'engager chez De Gaulle », avoir été vigoureusement éconduit et invité à revenir avec son père. Il est vrai que l'engagement ne passait pas par la gendarmerie. Il était personnel et il fut immédiat. Alain Planté accomplit d'abord ce que lui-même désigne comme des actes ponctuels et isolés de résistance, favorisant notamment des passages clandestins vers l'Espagne. Ensuite, se constituèrent de véritables réseaux réclamant clandestinité, secret et par-dessus tout courage. Alain Planté s'engage dans la résistance en 1942 et il rejoint en 1943 le réseau OCM, Organisation civile et militaire de Bordeaux. Ces activités de résistance n'empêchent pas Alain Planté, le baccalauréat rapidement obtenu, de poursuivre simultanément des études de lettres et de droit, où il bénéficie d'ailleurs de la compréhension discrète des autorités universitaires. Ce ne sont évidemment pas ses premiers mérites universitaires, mais ses activités dans la résistance qui valurent à Alain Planté d'être présenté au général de Gaulle en septembre 1944, dans des circonstances qu'il a souvent rapportées. Le général de Gaulle m'a serré la main. Puis il m'a poussé vers le balcon de la préfecture, d'où il présidait le défilé désordonné de ceux des maquis. Ajoutant, c'est Alain Planté qui parle, certes, ces hommes n'en étaient pas tous, mais ils étaient tous fiers de saluer le général. Désormais, et peu à peu, les armes vont se taire. L'exaltante et dangereuse aventure qui à la fois a révélé et a contribué à forger l'homme de courage, de conviction et de générosité laisse la place, en même temps qu'elle augure une carrière tout entière au service de son pays et de l'État. Et c'est ici que Michel Debré entre en scène, et par séductrice capture, soustrait aux facultés de droit, celui qui aurait pu être parmi nos maîtres, chers collègues des facultés de droit. Alain Planté, en effet, se destinait à l'agrégation de droit. Il y était poussé par ses professeurs. Mais en 1945, Michel Debré, rencontré grâce à des relations familiales, sans s'arrêter autrement aux projets universitaires d'Alain Planté, lui fait part de la création d'une école nationale d'administration, ajoutant « Nous avons besoin d'hommes comme vous ». Alain Planté se présente donc au premier concours de l'ENA. Il échoue, en raison, comme il aimait à le rappeler, d'une mauvaise réponse sur le Conseil d'État. Conseil d'État qu'il rejoindra cependant en 1950 en qualité d'auditeur dès son admission au concours suivant et sa scolarité accomplie à l'école. À 24 ans, Alain Planté met ainsi sa force d'âme déjà révélée au service de l'État. Il le fera sous des formes et avec des responsabilités multiples qui parfois se succèdent, souvent se mêlent. Alain Planté s'est décidé à agir. Il croit à l'action. Il sait aussi écrire et voit dans l'écriture la pensée en marche. Action, écriture qu'il ne sépare pas et qui se nourrissent mutuellement. Mais il ne conçoit pas ce couple nécessaire comme figé dans la contemplation critique du présent. Il le dira en ces termes en 1995, dans les discours de la rentrée solennelle de l'Académie, qu'alors il préside. « Tout porte nos contemporains au scepticisme, le relativisme scientifique, l'excès d'informations dispersées, les jeux faciles de l'opinion, l'innovation technique permanente, le relâchement des mœurs, l'abandon des foi religieuses traditionnelles. Or, poursuit-il, le scepticisme est un état d'esprit systématique, voire une doctrine, dont l'effet négatif atteint les principes mêmes de la connaissance et de l'action. Rejetant le scepticisme, le désenchantement qui atteint, nous dit-il, les fondements mêmes de la connaissance et de l'action, Alain Planté convoque au principe de son action publique et de son œuvre doctrinale la foi en l'homme et en son engagement. C'est affaire de conviction et d'attitude morale, il y sera fidèle toute sa vie. Cependant, tout comme le maître qu'il a choisi de servir, cette foi militante ne prive pas Alain Planté de discernement sur les petitesses du quotidien. Il sait l'égoïsme des hommes et des peuples, les pesanteurs de notre société, l'oubli de l'histoire, de notre histoire, de ce qu'elle enseigne et de ce qu'elle exige. Et discrètement, presque subrepticement, apparaît l'inquiétude, l'angoisse même, puisque, j'y reviendrai, c'est ainsi qu'il l'exprime dans ses derniers ouvrages. Si l'on veut maintenant reprendre le cours du temps, trois étapes se succèdent dans la carrière riche et multiforme d'Alain Planté, du jeune auditeur au Conseil d'État de 1950 au membre de notre Académie qui, lorsqu'il l'a quitté et qu'il nous a quittés, en était le doyen d'élection. D'abord, son action au Conseil d'État de son entrée dans le corps en 1958. Ensuite, avec le retour du général de Gaulle aux affaires, le temps des responsabilités au sommet de l'État pour accompagner les indépendances et présider aux relations qui se mettent en place avec les nouveaux États d'Afrique et de Madagascar. Puis viendra, troisième temps d'une riche vie, le retour au Conseil d'État avec de nombreuses fonctions et responsabilités à l'extérieur de celui-ci. Cette carrière, pourtant, ne peut être réduite à une sèche chronologie. Il faut la lire, il faut la parcourir, et nous allons le faire à la lumière des exigences, des convictions, des choix de valeurs qui furent ceux d'Alain Plantet. Il faut la lire comme la réalisation d'une vocation, la vocation presque religieuse d'Alain Plantet, entrée en gaullisme à l'âge de 15 ans, une de ces vocations dont Stendhal dit qu'elles font d'un métier une passion. Nous avons pour cela un guide. L'épée d'Alain Plantet, telle qu'il l'avait voulu et telle qu'elle lui fut remise par Maurice Druon. Sur la fusée est gravée la loi de Lorraine, symbole de la première et constante adhésion d'Alain Plantet à l'œuvre du général de Gaulle. La foi en l'État et la volonté de servir la chose publique sont représentées au revers de la fusée dans le faisceau du lecteur. À tout ceci, mouvement est donné par la garde qui figure une voile tendue vers le grand large, dressinée à la demande d'Alain Plantet pour faire savoir sa curiosité du monde. Ce sont plus que des signes. Ce sont des témoignages de ce qui compte pour Alain Plantet, des balises pour le rejoindre sur le chemin qu'il a su ouvrir et que nous parcourons aujourd'hui en remontant le temps. C'est un légiste que nous rejoignons. C'est un légiste que nous rejoignons de la race de ceux qui ont fait la France de Saint-Louis à Philippe le Bel, Saint-Louis, dont Alain Plantet disait descendre de deux lignées différentes. Il est vrai que le roi croisé avait eu 11 enfants, mais beaucoup étaient morts en bas âge. Un légiste, nous dirions aujourd'hui, plus platement, un grand serviteur de l'État, pour qui le droit est action. Un juriste qui ne sépare pas la plume de l'expérience, faisant sienne l'image que j'emprunte à Clausewitz, ainsi que certaines plantes, ne donne du fruit qu'à la condition de ne pas trop monter en graines. Il ne faut pas trop laisser croître les feuilles et fleurs théoriques des arts pratiques, mais les rapprocher de l'expérience, qui est leur terrain naturel. La plume et l'action. Pendant les 10 années qui font suite à sa nomination au Conseil d'État, Alain Plantet, nommé maître des requêtes en 1956, prend part aux activités ordinaires d'un Conseil d'État rénové par l'ordonnance du 31 juillet 1945 et dont les attributions et pouvoirs ont été sensiblement étendus, ainsi que l'a voulu René Cassin, à l'image du comité juridique créé à Alger en 1943 et placé sous sa présidence. Il sait conjuguer son travail au Conseil d'État avec la construction d'une œuvre doctrinale faite d'abord de son expérience récente d'une justice de proximité au Maroc. En quelques 3 années, à peine installé au Conseil d'État, il publie à la Librairie générale de droit et de jurisprudence un premier essai sur la justice répressive et le droit pénal chérifien, suivi d'une étude sur la justice coutumière marocaine, enfin sa thèse de doctorat au titre ambitieux, la réforme de la justice marocaine, justice marsenne, justice berbère. La question n'était pas entière. Le protectorat avait mis en place une justice moderne, ayant fort heureusement choisi, comme la France le fit généralement dans tout son empire colonial, de ne pas transposer le système français de dualité d'ordre de juridiction hérité de l'histoire nationale, pour lui préférer un système d'unité de juridiction qui confie le contentieux administratif à une formation spécialisée de la Cour suprême. La réflexion d'Alain Plantet se situe donc à mi-chemin d'une solution acquise dès le début du protectorat que nul ne songe à remettre en cause et que conservera encore le Maroc indépendant jusqu'à et y compris la récente constitution de 2011. À mi-chemin entre ce système de solution acquise et les perfectionnements nécessaires à apporter à l'appareil juridictionnel dans son ensemble, dans le respect de la tradition et attentif au particularisme berbère. Se reportant à cette réflexion, on ne peut qu'admirer qu'un séjour de quelques mois ait pu féconder une œuvre de cette ampleur. À relire les écrits marocains d'Alain Plantet, encore aujourd'hui, on apprend. En atteste la présence ce soir parmi nous du professeur Hasdine Kettani, maître du droit marocain, et qui a voulu venir lui-même saluer l'héritage. Ces 10 années au Conseil d'État sont aussi, après les écrits marocains, celle de la première naissance, pourrait-on dire, du grand œuvre d'Alain Plantet, son traité du droit de la fonction publique, dont la première édition en 2 tomes paraît en 1955 et qui connaîtra supplément et réédition. Grand œuvre autour duquel Alain Plantet développera jusqu'à la fin de sa vie de nombreuses harmoniques, progressivement étendu au droit de la fonction publique comparée de la fonction publique internationale, avec sur cette dernière un ouvrage majeur publié en 1977 et couronné par l'Académie des sciences morales et politiques. Lorsqu'Alain Planté publie la première édition de son traité, le statut général de la fonction publique, adopté le 19 octobre 1946 par l'Assemblée constituante dans sa dernière séance, statut qui concerne alors que les agents de l'État, est en soi une nouveauté. L'ancien régime ne connaissait pas la fonction publique, mais les fonctions publiques, correspondant à l'exercice de charges, de missions, d'offices dans la sphère publique. C'est la conception de Loiseau dans son traité des offices, se référant au « De officiis ministerum » d'Ambroise, qui emprunte lui-même jusqu'au titre au « De officiis » de Cicéron. Et c'est cette conception encore que l'on renvoie au lendemain du Code civil. Durant le XIXe siècle, les dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires restent peu nombreuses et bornées à des questions particulières, telles la loi de 1853, créant un régime des retraites, ou plus connue, la loi du 22 avril 1905, imposant, à la suite du scandale de l'affaire des fiches, la communication du dossier en matière disciplinaire. L'idée même d'un statut général légiféré est objet de controverse, qu'Alain Planté rappelle. Réclamé par l'opinion libérale sous la monarchie de Juillet et la Deuxième République, le thème est repris dans les premières années de la Troisième République avec le souci différent d'une détermination uniforme des droits des agents et des hésitations sur l'octroi du droit syndical, pourtant reconnu dans le secteur privé depuis 1884. Le statut de 1946, que présente magistralement Alain Planté, constitue donc une nouveauté. L'œuvre se veut fondatrice et repose sur le principe d'une organisation hiérarchique tempérée par les garanties reconnues aux agents subordonnés. C'est la conception française de la fonction publique, conception harmonieuse qui entend conjuguer l'efficacité de l'action publique, la diversité des corps et métiers publics et des garanties proches, sinon équivalentes, de celles qui vont au monde du travail en général. Ceci passe par une organisation uniforme, associant les agents à la gestion des corps, corps eux-mêmes dotés de statuts particuliers, pour certains dérogatoires au statut général, et de statuts spéciaux. La cohérence, certains diront rapidement la rigidité de l'ensemble, est assurée par une grille indiciaire transversale déterminant les rémunérations. C'est là la première période de la vie d'Alain Planté, celle des écrits marocains et de la première naissance du traité. Retour du Maroc, installé désormais à Paris, Alain Planté construit sa vie et son œuvre. Il épouse en 1955, la dernière année de son auditorat, l'année de la publication de la première édition du traité, Mademoiselle Christiane Violant, qui lui donnera 4 enfants, 4 filles, uniformément placées sous le signe marial, Marie-Agnès, Marie-Laure, Marie-Ève et Marie-Cécile, que je salue tout particulièrement ici ce soir. Jusqu'à son décès prématuré en 1999, Madame Planté sera à ses côtés, attentive et disponible, sans se départir d'une riche personnalité, d'une volonté propre qu'ont salué tous ceux qui, plus que moi, l'ont connue. Sur ce qu'a été pour Alain Planté la famille qu'il a fondée, sur ce qu'elle lui a permis de faire et d'écrire, qu'il n'eût pas fait ni écrit sans elle, la discrétion qui lui était naturelle et qui s'impose à moi me fait un devoir de ne pas en dire davantage. Au plus, convoquerai-je la formule de Portalis dans le discours préliminaire, tant elle paraît écrite pour lui. C'est par la petite patrie qu'est la famille que l'on s'attache à la grande. Ce sont les bons pères, les bons maris, les bons fils qui font les bons citoyens. C'est ainsi que les événements de 1958 et le retour du général de Gaulle au pouvoir trouvent le maître des requêtes Alain Planté. Planté l'Africain. Le 1er juin 1958, dans son discours d'investiture, le général de Gaulle, revenu aux affaires, annonce qu'il demande à l'Assemblée nationale de donner mandat au gouvernement d'élaborer puis de proposer au pays par voie de référendum les changements indispensables. Ce sera l'objet de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. À l'avènement des nouvelles institutions qui se préparent, tout naturellement, Alain Planté avait sa place. Dès le 1er juin, il est nommé au cabinet de Bernard Cornu-Gentil, ministre de la France d'Outre-mer, en qualité de conseiller technique. Il le quitte peu après pour rejoindre l'entourage du chef de l'État en qualité de conseiller technique à la présidence de la République auprès du secrétaire général pour la communauté, puis celle-ci dissoute en 1961 du secrétariat pour les affaires africaines et malgaches. Près du chef de l'État, il retrouve avec Françoise Duléry et Michel Aurillac Jean Foyer, chargé des relations avec la communauté, puis ministre de la Coopération de 1960 à 1962. Il conservera ses fonctions jusqu'en 1967, date à laquelle il est nommé ambassadeur à Madagascar pour ne quitter ce poste qu'en 1972. Ce sont donc là une petite quinzaine d'années qui font d'Alain Planté un acteur et un spécialiste incontesté des questions africaines, au moment où la nouvelle Afrique politique se construit et où évoluent profondément et rapidement ses relations avec l'ancienne puissance coloniale. Il sera accompagné ces transformations nécessaires, parfois douloureuses, dans un esprit d'ouverture, de réalisme, doublé d'une réelle chaleur humaine, toutes qualités qui seront pour beaucoup dans l'intensité et la durée des liens qu'il noue alors avec les responsables de ces nouveaux pays. C'est sans retrancher l'apostrophe ainsi que l'a fait récemment et abusivement un ancien Premier ministre qui lui dit comme Saint-Exupéry « Si tu diffères de moi, frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». La politique africaine du général de Gaulle, à la mise en œuvre de laquelle Alain Plantin est ainsi associé, associé au premier rang, a été clairement définie dans la continuité du discours de Brazzaville. « Les colonies, c'est fini », constate le général devant André Malraux. « Il faut faire autre chose ». Cette autre chose sera la communauté, mais une communauté qui réserve l'évolution vers d'autres formules et qui d'ailleurs ne durera guère plus de 2 années. C'est que, et c'est toujours de Gaulle qui parle, l'entreprise qui a naguère consisté à assumer le gouvernement, l'administration, l'existence de peuples coloniaux est désormais périmée. Le génie du siècle qui change notre pays change aussi les conditions de son action outre-mer. Par le fait des progrès accomplis dans nos territoires, de la formation que nous donnons à leurs élites, du mouvement d'affranchissement qui emporte les peuples de toute la terre, nous avons reconnu à ceux qui dépendaient de nous le droit de disposer d'eux-mêmes. Le leur refuser c'eût été contredire notre idéal, entamer des luttes interminables, nous attirer la réprobation du monde, le tout pour une contrepartie qui se fût inévitablement effritée entre nos mains. C'est le devoir de la France de faire en sorte qu'il en soit ainsi, de conduire chacun de ses peuples à s'administrer et à se gouverner soi-même. Longue citation, certes, mais qui est de seconde main, et que je reprends d'articles d'Alain Plantet, qui à l'époque et par la suite a volontiers exposé, textes et témoignages à l'appui, l'œuvre politique que le général de Gaulle voulait pour l'Afrique. Nul mieux que lui pour en faire résonner le message, message qui fut son guide et son drapeau, on dorait aujourd'hui bien platement sa feuille de route, lui qui, 15 années durant, fut l'un de ses plus hauts exécutants. Il n'eut pas récusé ce terme, d'abord à l'Élysée, auprès du général de Gaulle, Antananarivo ensuite, en qualité d'ambassadeur. À l'Élysée, associé aux travaux d'élaboration de la nouvelle Constitution, commissaire du gouvernement auprès du Comité consultatif constitutionnel et devant le Conseil d'État, puis associé à la préparation du référendum de 1958, Alain Plantet est plus spécialement chargé de la préparation du régime constitutionnel et administratif applicable aux pays d'outre-mer. Ce qui le conduit naturellement au secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches, où il rejoint Jacques Foccart. Dans ses carnets, ce dernier le salue ainsi. « Je trouve un secrétariat général bien organisé, avec des hauts fonctionnaires de qualité, au premier rang desquels un conseiller technique, Alain Plantet, compétent et efficace, et qui deviendra ambassadeur. » En 1967, en effet, Alain Plantet est nommé ambassadeur à Madagascar. Il y restera 5 ans. Il vient là encore réaliser la prophétie de De Gaulle, déclarant en 1958 aux Malgaches qui l'acclament « Demain, vous serez de nouveau un État, comme vous l'étiez quand le palais de vos rois était habité. » Il y retrouve Philibert Tsiranana, qu'il avait connu à l'Élysée, devenu premier président de la République malgache et qui sera chassé du pouvoir par la révolte des étudiants en 1972, au moment même où Alain Plantet est rappelé à Paris. Les responsabilités de l'ambassadeur de France dans le nouvel État sont immenses, s'ajoutant à celles de représentant défense pour tout l'océan Indien. Accompagner l'indépendance et la construction du nouvel État, donner leur juste sens et mesure aux relations naturelles avec la France, discerner les bases du développement d'une économie essentiellement agricole. La part prise à la politique d'indépendance des États africains, les responsabilités actives d'une représentation de la France dans l'océan Indien, tout cela confirme et exalte l'ouverture d'Alain Plantet aux affaires internationales. Sa conviction très gaullienne, que la France n'est elle-même qu'à l'écoute du monde et écoutée du monde. Et c'est dans cette disponibilité d'esprit et d'action qu'il regagne la France et le Conseil d'État lorsque prend fin l'ambassade de Tananarive. Commence alors la troisième vie d'Alain Plantet. Ce sera la plus longue, et 30 ans durant, elle sera aussi celle de sa présence et de sa parole dans ce palais de l'Institut. C'est la vie d'un conseiller d'État, riche d'expérience, justement distingué d'honneur, sollicité en conséquence pour de multiples fonctions, charges et responsabilités. Si, artificiellement, on veut mettre un peu d'ordre dans ces charges qui se relaient et qui se mêlent, charges qu'Alain Plantet accepte et exerce avec un égal enthousiasme. on peut distinguer trois secteurs, trois domaines dont l'investigation le rendra toujours présent parmi nous. D'abord, ce qui touche à l'international. L'Alsacien d'adoption ayant décidément fait du monde sa patrie, sans renier la sienne, tout au contraire. Ensuite, la poursuite du traité, témoin vigilant, lucide et de plus en plus inquiet de l'évolution de notre fonction publique. Enfin, une constante participation, attention et fidélité aux travaux de notre Académie. Alain Plantet a toujours aimé la découverte, les voyages, la connaissance d'autres peuples et d'autres cultures, et cela dès son premier séjour au Maroc. Il a été conduit aussi, du fait des responsabilités qui lui ont été confiées, à connaître et à comprendre les systèmes et les allégeances des États qui naissent au rythme de la dilution de l'Empire. Allant au-delà, il est naturellement curieux d'un monde qui change plus vite qu'il n'a jamais changé. Dès son retour à Paris, il se voit confier la responsabilité qu'il exercera 10 années durant du secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale en charge de son siège parisien et la présidence du comité permanent des armements, mission à laquelle la division du monde en deux blocs et la menace qui en résultait donnaient à l'époque une importance particulière. En 1988, il est élu président de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. Il va y déployer une activité remarquable, œuvrant avec discernement au développement et à l'amélioration de l'arbitrage international. En sorte que si la Chambre de commerce internationale de Paris est aujourd'hui une des plus importantes places d'arbitrage de Paris, du monde, Alain Plantet y eut sa part déterminante. C'est dans ce cadre que Dominique Achère, dont il a su mobiliser le talent et la haute expertise, lui remettra un ouvrage de mélange dont il était heureux et fier. Ses études regroupées sous un titre éloquent, « L'internationalité dans les institutions et le droit, convergences et défis », était, disait-il, le premier ouvrage de mélange offert à un non-universitaire. Mais n'était-il pas devenu un universitaire d'exercice, sinon de statut ? Dans l'introduction des mélanges, René-Jean Dupuis dit l'importance de l'ouvrage et la qualité de l'hommage ainsi rendu à Alain Plantet, à son action et à son œuvre. C'est que le dédicataire des mélanges avait compris, et compris d'expérience, nous dit René-Jean Dupuis, que, dans un monde resserré par l'essor prodigieux des communications et des échanges, l'interdépendance des nations ne permet à aucune de se croire encore aux âges westphaliens. Alors que dans la vision classique, le droit des gens apparaissait comme un droit de procédure destiné à faciliter les relations entre États, il est aujourd'hui un droit de réglementation déterminant les comportements attendus des gouvernements pour assurer le libre commerce, promouvoir le développement, garantir la protection des droits de l'homme, celle de l'environnement, organiser leur coopération dans divers domaines et d'appeler, avec Alain Plantet, à une nouvelle diplomatie. La diplomatie. Fruit notamment de ses années africaines et malgaches, Alain Plantet publie en 1987 un ouvrage intitulé « De la politique entre les États, principes de diplomatie ». Il fera l'objet d'une réédition en 1991, puis d'une nouvelle édition en 2000, sous le titre désormais de « Principes de diplomatie », l'année même, l'a-t-on assez remarqué, où Henry Kissinger publie son ouvrage éponyme. L'ambition est claire. Prenant acte du foisonnement, le mot est de l'auteur, du foisonnement des activités internationales, il est proposé une meilleure compréhension des principes et des méthodes de la diplomatie, propre à ordonner la politique entre les États, à développer leurs échanges, à lutter contre l'impression d'angoisse que suscite l'état du monde contemporain. Parallèlement, Alain Plantet publie en 1980 un gros ouvrage sur la négociation internationale, principes et méthodes, couronné par l'Académie française, réédité en 1994 et 2002, l'ouvrage qui n'est pas sans rapport avec les principes de diplomatie se veut instrumental, de caractère pratique. L'auteur le dit. C'est spécifiquement de la négociation qu'il s'agit, de la négociation entendue comme une méthode, comme un style, comme un art. Il y ajoute cependant le message d'une certaine éthique des rapports sociaux. Ces rapports sociaux qui sont, dit-il, rendu si difficile dans nos nations incertaines, en un monde où l'homme est devenu l'auteur de sa plus grande angoisse. L'angoisse qui habite nos nations et le monde qui doute. Il l'a convoqué, cette angoisse, au titre de ses principes de diplomatie. À peine évoquée, toujours pudiquement voilée, n'est-elle pas présente encore et de plus en plus dans l'œuvre de réflexion qu'il poursuit sur la fonction publique. La réflexion d'Alain Plantet sur la fonction publique a accompagné toute sa vie intellectuelle et politique. Commencée au lendemain du statut général de 1946, poursuivie sur plus d'un demi-siècle avec le relais filial dans l'édition de 2013 de Madame Marie-Cécile Plantet, Le traité pratique de la fonction publique est le témoin attentif, réfléchi et lucide de notre droit de la fonction publique. Mais le regard change. Le regard devient critique. Car la fonction publique du XXIe siècle n'a plus que de lointains rapports avec celle de 1946. Et pourtant, le droit qui s'y applique et qui la régit, quant à lui, reste en deçà des réformes nécessaires. Déjà dans la deuxième édition du traité en 1963, Alain Plantet avait montré pourquoi la construction d'origine pêche par esprit de système. Comment elle risque d'être insuffisamment fidèle à la grande diversité des services et des situations de fonction des agents. Quant au principe hiérarchique qui irrigue tout le système et lui donne sa cohérence, il constate rapidement une forme de déclin de l'autorité hiérarchique qui l'inquiète. Le trait critique va s'affirmer et l'approche se fait à la fois évaluative et prospective dans deux petits ouvrages intitulés « Réforme dans la fonction publique » qu'Alain Plantet donne en 1978 et en 1985 en complément du traité et plus encore dans les rééditions ultérieures du traité. C'est que les réformes inaugurées par la loi du 13 juillet 1983 viennent gonfler l'édifice géométrique et uniforme du statut bien au-delà de ce qu'il n'avait jamais été. Par des lois successives, en 1984 et 1986, le statut est étendu à la fonction publique territoriale, puis à la fonction publique hospitalière, en tant qu'il entend régir une population d'agents représentant pratiquement aujourd'hui le quart de l'emploi salarial national. Et ceci au rebours de l'histoire. Cela au moment même où l'insertion de l'appareil d'État dans l'espace européen emporte la liberté d'installation et de prestation de services et réduit les fonctions d'autorité publique à la portion congrue. Au moment même où une ambiance néolibérale adresse des critiques récurrentes et de plus en plus radicales à la fonction publique, où l'on cherche le rapprochement du secteur public et du secteur privé et l'emprunt aux méthodes de gestion de ce dernier, où l'État se délite en autant d'autorités indépendantes et agences sans que son poids se réduise, en sorte que les meilleurs esprits viennent à poser la question du principe même d'un statut général de la fonction publique. Tout cela, Alain Plantet le sait. Mieux que quiconque, il en mesure le poids, il en connaît les exigences. Conscient que le droit, surtout érigé en système, se perd lorsqu'il s'éloigne à ce point des réalités, il appelle à la réforme. Écoutons-le dans la préface de la dernière édition du traité qu'il a tenue entre ses mains peu avant de nous quitter. « Toutes administrations confondues, les charges publiques atteignent en France un poids que l'économie éprouve quelque peine à porter dans un environnement d'âpre compétition mondiale. Le statut privilégié du secteur public et de ses agents, même lorsqu'ils agissent sous la protection d'un monopole ou dans les zones de souveraineté traditionnelle, est menacé. Et de conclure que la fonction publique désormais doit tenir compte du puissant potentiel d'évolution de la société contemporaine et de l'opportunité caractérisée d'une réforme de l'État. » Cette réflexion sur la réforme de l'État, Alain Plantet va la développer au-delà du droit de la fonction publique dans de nombreux écrits et conférences, tout spécialement dans le cadre de l'Académie des sciences morales et politiques où il est élu le 19 décembre 1983 au fauteuil qu'occupait auparavant Marcel Rousselet. Il conduit ce débat aussi à partir des années 90 au sein de la Fondation Charles de Gaulle, avec notamment la présidence du comité de rédaction de la revue Espoir, et c'est cette même réflexion encore, mémoriel du passé pour y inscrire une nécessaire réforme de l'État qui l'anime au sein de la Conférence des académies de province dès sa création à la fin des années 80. Je crois pouvoir dire, pour l'avoir entendu de sa bouche, et parce que nombreux ceux et parmi ses proches qui m'en ont rapporté le témoignage, qu'Alain Plantet a aimé l'Académie et qu'il y a été heureux, ces 30 années durant, le tiers de sa belle existence. Il y a été heureux parce qu'il y est resté actif et que là encore, surmontant les difficultés de l'âge qui allait croissante, il a su concilier la réflexion et l'action. Point de nostalgie dans sa démarche d'un âge perdu de nos institutions et de notre droit public, mais une juste perception des changements nécessaires, de ces transformations, aujourd'hui accélérées, qui marquent les hommes et les choses, les esprits et la matière, et la volonté, fort de cette connaissance raisonnée, d'agir ou de réagir au mieux de la cité, parce que pour Alain Plantet, c'est dans la cité accomplie que l'homme trouve sa vérité, sa foi et, sinon son bonheur, le sens de son existence. Une juste perception aussi de la fonction du droit et de ses limites, Monsieur le Président, au creuset des disciplines sœurs. Je me risque à livrer ici un conseil de prudence emprunté à l'historique de ma propre littérature familiale et je le fais uniquement parce que j'avais donné ceci à lire au Président Plantet et qu'il m'avait dit voir lui aussi les choses ainsi. En devenant philosophe, que les juristes n'oublient pas qu'il y faut, avec un esprit critique très averti, une culture très étendue et très spéciale. Et qu'ils n'oublient pas surtout que la philosophie, si elle apprend à poser les grands problèmes, apprend parfois moins sûrement à les résoudre. J'ose à peine m'exprimer devant vous ainsi, Monsieur le Président. J'ai ainsi le souvenir des interventions d'Alain Plantet au sein d'un groupe de travail constitué par l'Académie sur le thème de la confection de la loi. L'idée en était venue d'une réflexion de Jean Foyer, livrant, avec l'autorité d'un ancien garde des Sceaux et d'un ancien président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, cette assertion paradoxale, selon laquelle, disait-il, il y a deux assemblées législatives en France, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Il faut relire les réflexions prémonitoires d'Alain Plantet et les méditer aujourd'hui où, par la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a barre sur la loi qu'il peut abroger et dont il peut redéfinir le sens ou dicter les modifications. Quelques années plus tôt, en 1995, Jean Foyer encore, usant cette fois de la langue latine qui lui était naturelle, m'avait demandé de participer à un groupe de travail sur l'abus du juridisme, en partant de la sentence bien connue de Tacite, qu'a encore évoquée notre confrère Madame Lelsol dans un article important en 2010, « Plurimae leges corruptissima res publica ». J'ai en tête les propos très fermes, très justes d'Alain Plantet pour condamner l'inflation législative, dans laquelle il voyait justement aussi une dépravation de la langue du droit. À vrai dire, la critique n'était pas nouvelle. Trois siècles après Tacite, Eutrope, résumant l'œuvre législative de Constantin dont il fut le secrétaire, dénonçait déjà de trop nombreuses lois, quelques-unes bonnes et justes, la plupart superflues, voire inutilement sévères. Et pour les lois françaises, le Montaigne des Essais n'est pas plus indulgent. Les lois françaises prêtent la main par leur dérèglement et déformité au désordre et corruption qui se voient en leur dispensation et exécution. À l'Académie, Alain Plantet réalise ainsi l'assomption d'une vie de service, telle qu'il l'avait choisie, telle qu'il a su la construire. Mais au-delà de sa religion gaulliste, notre maître se livrait peu, usant volontiers d'un humour généreux qui rendait son interlocuteur complice, mais le tenait aussi à distance. Apparaît cependant, récurrente dans ses écrits, conférences, préfaces de traités, tant sur la réforme de l'État que sur les relations internationales, la confession d'une angoisse, c'est le mot qu'il utilise et qui toujours revient. Certes, cette angoisse n'est pas celle du Baudelaire des fleurs du mal, l'angoisse atroce, despotique, sur mon front incliné plante son noir drapeau, non. L'angoisse d'Alain Plantet est celle qu'il ressent devant ce qui lui paraît échapper non seulement à l'action, mais même à toute conceptualisation logique. Et je serais infidèle à la vérité de sa personne si je ne m'élevais à sa suite au témoignage qu'il a voulu public dans ce curieux ouvrage de François Bluche, « Pourquoi croyez-vous en Dieu ?» À cette question posée à quelques 130 personnalités, Alain Plantet répondait en 1994 « L'homme vit, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la mort chaque jour. Voilà la seule certitude. En vérité, croire en Dieu, c'est le savoir et l'accepter. Ne plus attendre que la miséricorde, c'est-à-dire l'amour, la simple espérance rend proche et digne de Dieu, elle est le vrai signe de la foi. » Saint Anselme l'avait dit autrement, « Je ne cherche pas à comprendre afin de croire, mais je crois afin de comprendre, car je crois ceci, à moins que je ne croie, je ne comprendrai pas. » J'ai déjà trop parlé, et pourtant je n'ai pas su dire assez ce que nous devons, ce que je dois à Alain Plantet, présent, si j'y ai réussi, parmi nous ce soir. Pour me faire pardonner, j'emprunterai à l'attention de notre maître les derniers vers de la satire que Boileau adresse au roi, au grand roi, et sans trop relever des reproches si vrais, je m'arrête un instant, j'admire et je me tais.